Alléluia. Alors le titre, il est tout simple. Hein. Le titre de ce partage, c'est « La rentrée ». Vous êtes au courant ? Voilà. Plusieurs m'ont dit, tout à l'heure en arrivant, hein, j'ai vu déjà qu'à leur teint bronzé, ils avaient passé un bel été. Donc voilà, c'est important de bien se reposer. Mais il va y avoir, hein, à partir de demain, la remise en route. Et des fois, elle est violente. Hein. Des fois, la mise en route est assez compliquée. Et c'est également pareil pour l'Église. Toutes les activités de l'Église vont reprendre. Et donc, on aura l'occasion de voir tous les pôles d'activité de l'Église afin voilà, de partager ensemble. Alors, on n'est pas là forcément pour changer les choses, hein, continuer ce qui est en train d'être fait, puis encore aller même plus loin. C'est là où le Seigneur nous attend pour chacun d'entre nous. Vous dire également en quelques mots, donc c'est la rentrée pour nous, donc officiellement à partir d'aujourd'hui, donc nous prenons la responsabilité avec Henriette de l'Église, la responsabilité spirituelle, donc évidemment partagée avec le groupe d'anciens, hein, les hommes que le Seigneur a appelés également. Et on va voir ensemble, on va apprendre à se connaître, c'est que je suis, moi, dans le partage. On est, voilà, moi j'ai vite compris que, ben, en fait, c'est pas le pasteur qui fait tout, le Seigneur donne donc, et appelle à certains services dans l'Église, et l'Église, elle sert ben, justement à voir qui a reçu quoi, afin de pouvoir le développer, et que cela serve à la gloire de son nom. Amen. On le partageait hier avec quelqu'un, on n'est pas en rivalité ou en compétition, hein. Ça c'est dans le monde. Au contraire, nous voulons avoir la mentalité du royaume. Et la mentalité du royaume, c'est de désirer pour mon frère ou pour ma sœur quelque chose de mieux que moi. C'est ce que va dire Jésus. Hein. Jésus va dire, ben, quand je m'en serai allé, en fait, viendra le Saint-Esprit. Et puis vous ferez des choses plus grandes que moi. Alors faire des choses plus grandes que Jésus, je ne sais pas où on peut se situer. Mais en tout cas, c'est cette mentalité que le Seigneur veut nous inculquer, de voir dans le frère et dans la sœur, voilà, de le bénir, et dire « Seigneur, bénis-le, au-delà de toute espérance, amen, que le Seigneur soit béni. » Alléluia. Donc, la reprise des activités, ça va reprendre petit à petit, vous l'avez entendu dans les différentes annonces. Et j'aimerais vous parler, donc, ben, de cette rentrée avec ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors rassurez-vous, il n'y a rien de révolutionnaire, peut-être certains vont dire, mais on l'a déjà entendu. Alors entendre des choses, c'est une bonne chose déjà, c'est pas mal, c'est un bon début. Mais le plus important, c'est de les appliquer. Appliquer ce qu'on entend, dimanche après dimanche, mardi après mardi, à chaque fois qu'on est au bénéfice de la parole de Dieu, à entendre et appliquer ce que le Seigneur nous dit. J'aimerais vous parler de l'Église, et donc quelqu'un a dit que l'Église, c'est la force indestructible de Dieu. Et malgré tout ce que l'on peut traverser, et dans les églises que j'ai pu... on a pu avoir la charge et donc servir, on s'est aperçu qu'il y a toujours les mêmes cas de figure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, l'Église est là, elle est florissante, elle gagne des âmes les unes après les autres, et puis il va y avoir à un moment donné ben, des situations difficiles à gérer, compliquées, notamment des divisions, mais ça on le retrouve partout. Mais le Seigneur nous dit que si on compte sur sa grâce, alors cette Église, elle va tenir debout. Moi, je remercie Dieu parce que cette Église, ben, elle tient debout. Alléluia. Et elle va tenir debout parce que c'est le plan de Dieu. Et Dieu a un plan donc pour cette Église, et ce plan, il est indestructible. D'ailleurs, la première fois où Jésus va parler de l'Église, on va prendre ce verset dans Matthieu chapitre 16, verset 18, ces paroles, on les connaît, mais c'est bien de pouvoir se les rappeler ce matin. Matthieu 16, verset 18. Il est dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Au travers de ce verset, tout simple, mais finalement d'une grande puissance de la part de notre Seigneur, on s'aperçoit que ces paroles, elles viennent directement du Seigneur Jésus. Jésus va faire cette affirmation, « Et moi, je te dis, Et quand Jésus parle, évidemment, il y a une autorité qui se dégage, parce que en tant que fils de Dieu, cette autorité était là. D'ailleurs, les pharisiens et les gens qui suivaient le Seigneur Jésus étaient étonnés de son autorité, parce qu'il parlait comme autorité. Ils avaient l'habitude d'entendre des discours religieux, mais là, quand Jésus parlait, il y avait quelque chose de différent qui touchait les cœurs. Alléluia. Donc, affirmation du Seigneur Jésus, mais également, il y a un contenu. Du message, c'est Jésus va dire sur finalement je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, donc c'est ça la déclaration, et la déclaration c'est en fait sur la déclaration de ce que tu viens de dire, Pierre, c'est ça le contexte, hein, de la déclaration que tu viens de dire, alors je bâtirai mon église. En fait, quand on remonte un peu plus haut et quand on voit le contexte, c'est le contexte où Jésus va s'inquiéter de savoir qui il était. Et dire, mais qui dit-on que je suis ? À cette question, nous devons tous répondre. Qui est Jésus pour toi ? Vincent a pu le dire, de qui on s'approche, hein, évidemment, par rapport à la Sainte Cène. Mais qui est Jésus pour toi ? Alors, on connaît les réponses, hein, certains vont dire, mais certains disent que tu es un prophète, d'autres ceci, cela. Et encore aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur Jésus. Mais il y a une déclaration que va faire Pierre. Donc, ce qui va devenir l'apôtre Pierre, il va dire, Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il y a une puissance dans ces paroles qui se dégage et également une révélation de qui était Jésus, hein, par rapport à la réalité des choses. Alors oui, on veut affirmer plus que jamais qu'il est le Christ et il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et amen. Donc voilà le contexte de cette déclaration. Et il dit, donc la suite de ce verset nous dit, je bâtirai. C'est lui qui bâtit donc l'Église. Et l'Église, bien évidemment, c'est chacun d'entre nous. Hein. Nous sommes les pierres vivantes. Et chacune à sa place. Il nous a dit que tout l'édifice bien coordonné. En fait, il doit pouvoir s'élever. Ça, quand il dit je bâtirai, c'est qu'il construit. D'abord, il va nous construire individuellement. C'est ce que le Seigneur va s'attacher à faire dès qu'on donne notre vie au Seigneur. Ce n'est pas la fin d'une chose. Quand des personnes demandent le baptême, quand elles passent par les eaux du baptême, moi je répète régulièrement que ce n'est pas la fin d'une chose. C'est le commencement, justement, d'un cheminement avec le Seigneur. Et le Seigneur veut construire, veut qu'on puisse s'édifier les uns ensemble, les uns et les autres ensemble. Alléluia. Et je remarque également au travers de ce verset qu'il y a donc une promesse. La promesse que l'Église, on peut parler d'Église universelle, mais nous ici on va parler d'Église locale. Elle se décline donc, on fait partie de l'Église universelle, mais voilà, Église locale, nous, ici, à Toulouse-Saint-Agne, promesse de solidité, parce qu'il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et on voit au travers de l'histoire que dès qu'il y a eu la naissance de l'Église, on va le voir, hein, avec les quatre points de la naissance de l'Église, ben, on s'aperçoit que dès qu'il va y avoir la naissance de l'Église, il va y avoir une attaque contre cette Église. Le Seigneur nous a prévenu qu'on aurait des tribulations, mais également un encouragement pour nous dire, donc vous aurez des tribulations, mais en fait, je serai avec vous, cette promesse avant de quitter cette terre pour aller dans son ciel de gloire. Il va dire, donc je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du monde. Alors, à moins qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant la nuit, mais la fin du monde n'est pas encore arrivée, hein, on y est en plein, en chemin, on voit tous les événements qui prennent place, mais le Seigneur nous assure de sa présence, alléluia. Donc, promesse de solidité et également cette assurance, cette confiance que le Seigneur est toujours avec nous, alléluia. Des fois, on traverse des moments, des situations difficiles et on pense que le Seigneur, on a cette sensation que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. S'il y a un abandon, ça vient toujours de notre part. Et ce, consciemment. Ce n'est pas un jour, à un moment donné, on se lève et puis on décide d'abandonner. C'est que petit à petit, il y a des choses qui se passent dans les cœurs. Et puis on s'aperçoit que certains s'éloignent au fur et à mesure. Alors, quand il va y avoir cette naissance de l'Église, on va le lire. Hein, donc c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. Acte 2, 42, 47. En fait, c'est pour ne pas perdre le nord et garder le cap en tant qu'Église. Ben, le Seigneur nous dit dans sa parole quatre choses essentielles pour qu'on puisse retrouver au sein de l'Église. Alors nous lisons donc Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit ici les quatre repères pour une église en bonne santé. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et l'Église dit Amen, Alléluia. On voit ici donc la naissance de l'Église, comment ça s'est passé. Mais au préalable, quand on regarde également, il y a cette promesse de la part du Seigneur. Il dit que il enverrait son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donc allait survenir sur chacun d'eux à ce moment-là. Et puis par répercussion chacun d'entre nous, et que en fait on allait aller de l'avant avec cette force indestructible, et l'Église, elle va toujours de l'avant, elle est appelée en tout cas à aller de l'avant. Avec le Seigneur, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit on avance, soit on fait des pas en arrière, mais nous on veut et on a ce désir dans notre cœur, c'est que l'Église, elle aille de l'avant, pas pour avoir un succès personnel, mais pour simplement arracher les âmes à l'enfer, les âmes aux ténèbres. Et je crois que si l'Église, elle est là, c'est parce qu'en fait, elle a cette vocation de pouvoir briller, où ça? Dans les ténèbres. Et les ténèbres sont épaisses, on le voit de plus en plus. On voit certaines lois qui sont votées, certaines choses, où on essaie finalement de rejeter Dieu du pays. Vous savez que c'est la dernière chose à faire. Dernière chose à faire. De pouvoir rejeter les principes qui sont de la parole de Dieu, afin de voter certaines lois, mais on veut tenir ferme, on veut encore annoncer à toutes les personnes qui cherchent la vérité. Et la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc dans chaque être humain, il y a comme cette recherche, ce vide, donc quelqu'un va le dire, en forme de Dieu. Et en fait, chaque personne recherche Dieu. Certains ne le cherchent pas à la bonne place, mais nous voulons être là quand le besoin se fait ressentir, quand une personne cherche la vérité en disant ben, « je peux t'enseigner la vérité parce que je l'ai rencontrée ». Parce que la vérité, ce n'est pas un concept, un mot comme ça, au hasard. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va dire « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alléluia, nul ne vient au Père que par moi. Alors pour ne pas perdre le nord en tant qu'Église, le Seigneur nous a donné des repères. Et vous savez, on prend aujourd'hui donc la direction spirituelle de l'Église. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des choses révolutionnaires, mais simplement acquérir encore de la stabilité. Et comme le dit dans le livre de Jérémie, marcher dans les anciens sentiers. Et les repères que nous donne la parole de Dieu, ils sont simples, on l'a vu. Tout d'abord, moi je les ai appelés les quatre points cardinaux. Ils persévéraient, ça c'est la première des choses. Et je crois que dans le cœur de chaque chrétien, de chaque croyant, il faut que le Seigneur puisse trouver de la persévérance. Nous voulons persévérer dans les choses que nous avons apprises et nous voulons les appliquer, que le Seigneur nous aide à persévérer. On connaît tous des personnes qui commencent des projets et puis qui ne les terminent jamais. Mais que le Seigneur nous aide à persévérer, coûte que coûte. Alors certains vont dire, mais c'est difficile. Le Seigneur nous a avertis, il nous a avertis en disant que ça allait être difficile. S'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont donner leur vie au Seigneur et que là, toutes les choses vont s'arranger, ben c'est faux, hein. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on change de camp et qu'il y a un ennemi qui est là en essayant de nous déstabiliser. Mais dans toute sa grâce, le Seigneur ne nous a pas laissés sans ressources. Il nous donne son Saint-Esprit, alléluia, déjà à la conversion, Ensuite, évidemment, pour aller plus loin, dans le baptême du Saint-Esprit, qui est dans le signe initial, c'est le parler en langue, on veut l'affirmer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le dit pas, donc on a eu quelques soucis, quelques difficultés, donc sur Carpentras, en disant, mais ça c'était pour la période des apôtres, maintenant c'est terminé. Et non, pas du tout. Nous sommes une église dite de Pentecôte, et il faut que la vie de l'Esprit puisse se manifester au milieu de nous. Amen. Et c'est pas simplement que le dimanche, ou pas simplement que dans les prophéties, ou dans l'interprétation, mais également dans la révélation de puissance, d'autorité, et tout ce que la Bible enseigne. Alléluia. La Bible nous dit d'aspirer à ces choses-là. Et je veux aspirer, en toute humilité. Tout d'abord, j'ai vite compris que le Seigneur n'avait pas besoin de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors celui qui peut-être qui se croit à un certain niveau, le Seigneur nous ramène finalement à dire, mais finalement, on est des serviteurs inutiles, mais dans sa grâce, le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous. En fait, c'est un privilège que de pouvoir servir Dieu. Une grâce que le Seigneur nous fait, et chacun d'entre nous, on va le voir, on va le développer, ben le Seigneur, il veut nous utiliser chacun là où nous sommes, avec les moyens qu'il nous donne. Amen. Il persévérait dans quoi ? Il persévérait dans l'enseignement. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être enseigné. Tant que nous serons ici-bas sur terre, j'aimerais vous dire que nous sommes à l'école de Dieu. Alors c'est la rentrée de demain. Et donc l'école, alors moi quand je parle d'école, ça vient me bousculer un peu, parce que je disais, j'aime le dire comme ça, en fait, moi j'ai pas quitté l'école, j'ai fui l'école. Voilà, c'est une différence qui est notable, mais dans toute sa grâce, le Seigneur, j'ai pu expérimenter ce verset de Joël où il est dit « Je te rendrai ». Tout ce qu'on a pu te voler, et puis le Seigneur il l'a fait, donc, et par un autre moyen, le Seigneur a béni quand même. Alléluia. Mais donc nous sommes à l'école de Dieu, et nous voulons avoir une oreille exercée pour entendre déjà la voix de Dieu nous parler, et nous enseigner les valeurs qui sont dans la parole de Dieu. L'enseignement, il a été donné au préalable par Jésus. Il a été recueilli et transmis par les apôtres. Et que Dieu fasse que nous soyons sensibles à ce que le Seigneur, lui, veut dire à son Église. Parce qu'il est dit, c'est mon Église. Donc, et il y a un message à transmettre. D'abord, un enseignement à transmettre. L'enseignement qui consiste à présenter qui ? La personne du Seigneur Jésus. Je crois plus que jamais à l'évangélisation personnelle. Toujours impressionné de savoir que, à un moment donné, quand on fait connaissance, donc on en parlera tout à l'heure, après l'assemblée, le vote de l'Assemblée générale, ben, en fait, je suis toujours émerveillé de savoir quand on est dans cette période de changement et qu'on apprend à faire connaissance. Et pour faire connaissance, ce qui nous intéresse au préalable, évidemment, c'est de savoir comment vous avez rencontré le Seigneur. Moi, je suis toujours émerveillé de savoir comment le Seigneur y procède, ce qu'il met en place pour sauver une personne, l'attirer de manière différente. Et chez certains, ça se passe de façon spectaculaire, pour d'autres, de façon, on va dire, tout à fait banale, mais il n'y a rien de banal quand quelqu'un passe de la mort à la vie, quand il se tourne vers le Seigneur. C'est d'ailleurs le plus grand de tous les miracles. Aujourd'hui, si quelqu'un a un besoin physique, ben, on peut prier le Seigneur et il peut s'opérer un miracle extraordinaire, une guérison. Évidemment, on le croit et on prie pour ça, on peut imposer les mains par la grâce du Seigneur. Mais le plus grand de tous les miracles, c'est quand un homme, une femme, les écailles de ses yeux tombent, puis, et qu'il voit finalement qu'il est perdu. C'est ce que fait le Seigneur. Certains aujourd'hui ont un pseudo-évangile en nous disant que finalement, viens au Seigneur avec le potentiel que tu as, il y a un potentiel dans ta vie, le Seigneur veut l'utiliser. Mais moi, ce n'est pas ce que je trouve dans la parole. Dans la parole, ce que je trouve, moi, c'est que quand on se tourne vers le Seigneur, quand on est éclairé, le Seigneur nous dit que finalement, nous sommes perdus. Alors ça, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle commence d'abord par entre parenthèses, une mauvaise, finalement, en nous rappelant ce que nous sommes, perdus, privés de sa grâce. Mais à un moment donné, il y a une révélation qui vient dans notre cœur et on réalise que le Seigneur, donc par notre nature pécheresse, lui, il a payé à la croix du calvaire et il y a ce processus de la nouvelle naissance, donc la repentance, et on confesse au Seigneur nos péchés, d'abord, pas un homme. Au Seigneur, je confesse, Seigneur, voilà, je te demande pardon pour mes péchés, verbalisés, et à partir de ce moment-là, le Seigneur dit qu'il fait de nous des créatures nouvelles. Je ne sais pas vous, mais moi, avant de connaître le Seigneur, combien de fois j'ai essayé de me changer. Et à partir de demain, ça va changer. Ça a duré 32 minutes au plus fort de mes résolutions. Mais parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de changer. On peut s'améliorer un peu, mais pas la capacité d'être transformé de l'intérieur. Et c'est ce que fait la nouvelle vie que le Seigneur nous propose. Alors oui, cet enseignement consiste à présenter le Seigneur Jésus-Christ et que l'Église, elle brille pour pouvoir annoncer Jésus et Jésus seul. Alléluia, que son nom soit béni. À expliquer finalement sa personne, qui est Jésus. Cette question au préalable qui a été posée par Jésus lui-même, à laquelle chacun nous devons répondre, expliquer sa personne et surtout sa mission, qu'il est venu sur terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et nous étions de ce nombre. Nous ne devons jamais l'oublier, que nous étions perdus, mais le Seigneur est venu, il nous a retrouvés, alléluia, et désormais, nous sommes des gens de la maison de Dieu. C'est pas peu de choses, ça, ce matin. Hein. Je pense qu'on devrait sauter jusqu'au plafond, hein, louer le Seigneur jusqu'à 14h cet après-midi en disant, Seigneur, j'étais perdu, en fait, tu m'as retrouvé, et maintenant, je suis quelqu'un qui t'appartient, alléluia, à toi la gloire. Dans l'enseignement, il est dit, Seigneur, dans ses dernières paroles, Matthieu 28, on les connaît bien aussi, Matthieu 28, verset 20, il va dire, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous quand, tous les jours, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc il y a un enseignement qu'on doit apporter à ceux qui ne sont pas encore éclairés, de dire, mais en fait, on veut enseigner les uns et les autres qu'il y a une maturité à acquérir et une certaine stabilité. Dans un autre passage, il est dit que les pharisiens, à un moment donné, ils étaient mécontents. Ils étaient mécontents, vous savez pourquoi? Parce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Alors là, pour eux, c'était quelque chose de terrible, horrible, de pouvoir annoncer ça. Finalement, c'est le même message qui brûle dans notre cœur, de pouvoir annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Certaines religions, quand on rentre en contact avec eux, c'est là où ça va coincer, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas cette révélation, de dire mais que Dieu ait pu avoir un fils, et pour qu'il y ait un fils, donc il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un acte, vous voyez, où ça peut amener certaines personnes à la réflexion. Mais quand on le découvre, et bien finalement, nous-mêmes, on peut dire, mais oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et ça bouleverse nos vies. Amen. Un autre verset qui nous dit, « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Vous voyez, s'il y a quelque chose que l'ennemi va faire, va attaquer, il va essayer qu'à chaque chrétien, on puisse avoir le bec cloué. Mais on ne veut pas se taire. Hein. Ah, évidemment, il faut le faire avec toute sagesse, intelligence, et je crois que la sagesse et l'intelligence, c'est ce que nous devons demander au Seigneur. Hein, moi, je dis, Seigneur, voilà, c'est déjà arrivé à quelqu'un, hein, à Salomon, hein, rendez-vous compte. Hein. Le Seigneur nous dit, ben voilà, tu as été agréable à mes yeux, ben demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Moi, je vous avoue, personnellement, je ne sais pas ce que j'aurais demandé. En tout cas, lui, il va dire, Seigneur, donne-moi. Voilà, de la sagesse, de l'intelligence, afin de pouvoir conduire ce peuple. Et quand je l'ai lu dans la parole, j'ai dit, ce verset, je veux le faire mien, parce que pour diriger, donc avoir la responsabilité au niveau de, finalement, du partage, de la direction spirituelle, on a besoin de sagesse, on a besoin d'intelligence, mais pas la nôtre, celle qui vient du Seigneur. Alléluia. Donc, oui, il y a un ennemi qui est là en essayant de nous défendre, absolument de parler et d'enseigner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'on doit obéir à la loi des hommes. On doit être soumis aux autorités. Il y a un verset qui nous dit que quand même, la seule chose où on doit obéir, c'est quand c'est contraire aux principes, désobéir, oui, quand c'est contraire aux enseignements du Seigneur. Alors là, il faut du courage pour pouvoir s'opposer à un moment donné et dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Alors ici, on va essayer avec les anciens, tous ceux qui prêchent la parole, de pouvoir amener un enseignement qui est biblique, doctrinal, alléluia, parce que c'est notre boussole. On l'a chanté tout à l'heure, cette parole qui se donne, cette parole qui vient censurer, qui vient couper, qui vient retrancher, qui vient également nous encourager. Merci Seigneur, il nous encourage. C'est déjà arrivé à plusieurs où, à un moment donné, on traversait des moments difficiles. Et comme par hasard, c'est entre parenthèses, comme par hasard, quelqu'un a dit que le hasard s'écrit avec un D majuscule. Et comme par hasard, on lit un verset qu'on a lu, qu'on a relu à maintes reprises, mais à ce moment-là, il va nous parler. Pourquoi ? Parce que la parole, elle est vivante. Amen. Un jour, une citation de quelqu'un qui a dit, vous savez que la Bible, c'est le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. C'est la réalité des choses. Alors merci Seigneur que dans cette église soient trouvés des hommes qui enseignent évidemment la bonne parole et la bonne doctrine. Et aujourd'hui on le voit, tellement de choses farfelues qu'on retrouve pas dans la parole de Dieu, des fausses doctrines qui sont là. Mais nous voulons apporter, enseigner la vérité. Alléluia. Un autre point donc qui va nous aider à nous repérer en tant qu'église, c'est la communion fraternelle. Si ce matin, on vous avait dit, je ne sais pas, je prends cet exemple, on va se retrouver à la place du Capitole, là-bas, et puis c'est là où le Seigneur va donner sa bénédiction. Si on avait la certitude, on y serait allé en courant. Eh bien, il y a un endroit où le Seigneur envoie constamment sa bénédiction. C'est quand le peuple de Dieu est uni ensemble et dans la communion fraternelle, rappelez-vous du psaume 133, il dit que c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Amen. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, là où il y a la bénédiction de Dieu, je vais y être. Je veux me trouver là où se trouve la bénédiction de Dieu. Le Seigneur me bénit, il me bénira encore et il nous bénira en tant qu'Église, mais dans cette communion fraternelle. À un moment donné, l'apôtre Paul, il va avoir une révélation des derniers temps. Les temps de la fin, dans la fin du monde. Et puis, il écrit dans l'épître à Timothée, il dit, mais sache qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et là, on est tous d'accord pour dire qu'on vit des temps difficiles. Et puis, il y aura certaines catégories de personnes, et notamment, les gens seront égoïstes. Et là, on pourrait faire l'erreur de se dire, mais ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si vous lisez bien le passage, ça s'adresse à des personnes qui ont connu le Seigneur et qui, à un moment donné, dérivent en, finalement, regardant que leur nombril y être égoïste. Je crois qu'il y a une puissance et des bienfaits de se retrouver dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose que j'ai compris assez vite. Et donc, j'étais un partisan de la communion fraternelle, de pouvoir se retrouver dans différentes activités, là où le peuple, les enfants de Dieu se retrouvent ensemble. Le Seigneur, donc, je l'ai dit, il envoie sa bénédiction. Alléluia. La communion fraternelle, c'est quoi finalement? C'est le partage, c'est l'amour en action. Parce que dire qu'on aime, c'est une chose, mais c'est l'amour en action, la communion fraternelle. C'est tellement important. Donc, les Acostas s'en souviendront, quand on est parti de Béziers, je l'avais tellement prêché que quand je suis parti, ils m'ont fait un t-shirt avec une des citations que je citais régulièrement. C'était « La communion fraternelle, c'est bon pour la santé ». Alors peut-être que, je ne sais pas, on le marquera quelque part, mais c'est la réalité en fait. La communion fraternelle, c'est bon pour les uns et les autres. Combien de fois c'est arrivé? On traverse des moments difficiles. Et vous savez, quand on traverse des moments difficiles, la seule chose qui, humainement, la seule réaction qui va venir spontanément, c'est de pouvoir nous retirer et nous isoler. Finalement, c'est la dernière chose à faire. La réaction, c'est de, au contraire, de m'attacher à la communion fraternelle. Et je l'ai expérimenté personnellement, traversé des moments difficiles. Et le frère et la sœur, ne sachant rien de ce que j'étais en train de traverser, à un moment donné, simplement, sans dire un seul mot, me prendre par le cou et me dire « Sois béni ». Pas grand-chose, finalement. M'encourager et dire « Mais finalement, il y a une bénédiction qui est là, cette communion fraternelle. » Alors, attachons-nous à cette communion fraternelle, ne soyons pas égoïstes à regarder on peut ou on ne peut pas, mais au contraire, s'engager les uns envers les autres. La communion fraternelle, c'est l'offrande personnelle de sa vie pour l'autre. Ah, ça, c'est compliqué. Vous connaissez le plus grand des commandements ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et dans les évangiles, il est dit de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyons honnêtes. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on aime le prochain comme nous-mêmes ? Alors, vous tous qui êtes là ce matin, il n'y a aucun souci de vous aimer. Vous êtes tellement gentil, merveilleux. Là, j'ai une image là, panoramique qui est extraordinaire. Mais le prochain, c'est peut-être celui qui me casse les pieds. C'est celui qui vient me perturber. Et c'est là, en fait, où la parole de Dieu, elle est en train de nous dire, finalement, qu'on a besoin de crier au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et de ton amour. Finalement, c'est surnaturel. D'aimer le prochain comme nous-mêmes, c'est savoir s'oublier. La communion fraternelle, c'est également la protection pour l'Église. Elle nous protège du danger. Vous avez tous vu certaines vidéos quand un animal en Afrique est poursuivi par un prédateur qui est là. Quand il est seul, isolé, il n'y a aucune difficulté. Quand ils sont en meute et en troupeau, et même des animaux, on n'aurait pas pensé qu'ils puissent se défendre, mais ensemble, ils se défendent. Quelle belle image pour l'Église. Donc oui, la communion fraternelle, elle est tellement importante et on veillera à ce que cette communion fraternelle soit là. On favorisera des moments pour faire donc les efforts. Aujourd'hui, les personnes qui sont des partisans du moindre effort. On veut que tout tombe tout cuit du ciel. Ce n'est pas ce que je trouve dans la parole. En fait, toutes les promesses, et il y en a beaucoup, plus de 800 promesses, on trouve que toutes les promesses, elles sont conditionnelles. Si on fait certaines choses, alors il y aura, à un moment donné, un fruit à tout cela. Et comme le Seigneur, qui est fidèle, n'est pas un homme pour mentir, il tient toujours ses promesses. Alors la communion fraternelle, c'est important. La fraction du pain, également, c'est un autre point qui est tellement important. Cela se rapporte à la Sainte Cène. Pourquoi, finalement ? On doit se poser les bonnes questions, on ne doit pas faire les choses mécaniquement, machinalement. Je prends la Sainte Cène le dimanche matin, mais en fait, on doit vraiment se poser et se souvenir du sacrifice de Jésus. Alors si on dit se souvenir, on pourrait dire, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous savez que c'est arrivé à un homme de Dieu ? Un jeune qui commençait dans la prédication, un jeune pasteur, c'est Timothée, et l'apôtre Paul va faire cette recommandation. Souviens-toi de Jésus. Wow. Si lui a dit souviens-toi de Jésus, c'est peut-être qu'il avait perdu du regard quelle était vraiment la mission, et puis il portait ses regards ailleurs. Et on sait que quand on porte ses regards ailleurs, c'est là où on voit les difficultés, c'est là où on voit que finalement, un peu comme Pierre qui va s'enfoncer, tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau, et puis quand il a regardé aux éléments extérieurs, il a commencé à s'enfoncer. Mais quand on tourne les regards vers le Seigneur, alléluia, on est rayonnant de joie. La fraction du pain, se souvenir. Alléluia, donc je passe sur la forme, les symboles, la fréquence. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de précision, de choses précises ? C'est à un moment donné, selon chaque église. Là, par exemple, on m'avait invité pour aller prêcher à Nîmes. Et à Nîmes, depuis l'après-confinement, ils partagent la Sainte-Cène une fois par mois. c'est pour voilà, par des mesures. Alors on va pas, je dis pas qu'on va faire une fois par mois, mais tout ça pour vous dire que pas de fréquence. Alors ici on le fait tous les dimanches, gloire à Dieu, il n'y a aucun souci, on continuera comme cela, mais le plus important, c'est de se souvenir de Jésus, de son sacrifice à la croix du calvaire. Alléluia. Les conditions pour participer, on le dit régulièrement, c'est tout d'abord, il y a cette cohérence à avoir. C'est-à-dire être né de nouveau, avoir donné notre vie au Seigneur. Souvent, certaines personnes qui viennent nous visiter dans nos milieux ont un peu cette image un peu d'une autre religion où ils ne savent pas quoi faire dans ces moments-là. Ils vont prendre le pain et le vin. Et puis dans un second temps, on explique que ce sont tous ceux et celles qui ont été baptisés à un moment donné, à l'âge adulte, par immersion. Tellement important. Et puis, un autre repère, c'est la prière. La prière, c'est tellement important pour l'Église. Rien ne se passera sans l'intercession, sans pouvoir crier au Seigneur. On en parlait ce matin avec le groupe d'intercession. Moi, je bénis Dieu parce que quand il y a dans une église un groupe d'intercession, ça sous-entend que le Seigneur, il est là, il entend nos prières. Est-ce que vous savez que ça, ce n'est pas réservé simplement à quelques-uns dans l'Église? C'est chacun d'entre nous. Dieu cherche des intercesseurs. La suite du verset nous dit qu'il n'en trouve pas. Ça, c'est terrible. Mais nous, on veut dire, Seigneur, on est là, avec les moyens qui sont les nôtres. Et nous, ce qu'on veut aussi, là, au milieu de nous, c'est favoriser des temps de prière, d'intercession. Pourquoi ? Pas pour la bobologie. Des fois, on a assisté, Frédéric sera d'accord avec moi, on a assisté à des réunions de prière. Je vous promets, c'est le mur des lamentations. Le mur des lamentations, alors qu'on veut implorer la grâce de notre Seigneur pour les perdus. Tellement d'hommes et de femmes qui, si le Seigneur venait aujourd'hui, passeraient l'éternité en enfer. Personne n'est résolu à ça, même pas Dieu, parce que Dieu, dans sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors on veut être là, dans la prière, intercéder pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Donc on voit ici les quatre points pour pouvoir se repérer, c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Et rapidement, je vais passer pour vous dire que Dieu, quand l'Église est instituée avec ces repères-là, Dieu cherche. Il cherche quoi? Il cherche, depuis la chute, il cherche. D'abord, rappelez-vous, avec Abraham, il va lui dire, où es-tu Abraham? Est-ce que quelqu'un pense que Dieu avait perdu, s'était caché si loin que Dieu ne le voyait pas? C'est parce qu'en fait, il y avait cette parole un peu pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu avais tout pour réussir, puis finalement, voilà, à cause de la désobéissance, désormais, il va y avoir cette sanction parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Ça, c'est quelque chose, évidemment, d'acquis. Est-ce que vous savez que le Seigneur nous cherche, chacun d'entre nous? Et c'est un privilège que d'être celui que Dieu recherche. Et le Seigneur, il recherche dans son Église, et quand il le trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il le restaure, parce que la vie, elle brise. Le Seigneur, lui, vient pour, finalement, nous restaurer. Et tous ceux et celles qui sont en bonne santé spirituelle, c'est qu'au préalable, le Seigneur est venu nous restaurer. Moi qui me tiens devant vous ce matin, j'étais complètement brisé par le péché, une vie dissolue, loin de Dieu. Puis quand on vient au Seigneur, le Seigneur, il nous prend, alléluia, il nous façonne. Et il nous restaure, il nous soigne, amen, il nous guérit, et ensuite il nous demande de le suivre. Et on veut répondre à l'appel de Dieu. Et quand on le suit, alors Dieu cherche, il cherche premièrement des adorateurs, que nous soyons prompts à louer notre Seigneur, que le chantre, celui qui a la responsabilité de conduire le temps de louange, ne soit pas en train de supplier l'Église en disant « s'il vous plaît, louez le Seigneur ». Il faut que ça vienne vraiment de notre cœur, et dire « Seigneur, je veux te louer ». Comment? En esprit et en vérité, alléluia. C'est quoi louer Dieu? Louer Dieu, c'est dire finalement tout ce que le Seigneur est. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux, il est fidèle, il est rempli de bonté. C'est le verset qu'on a lu en introduction du psaume 147. Et moi, je bénis Dieu parce que adorer soit quelque chose qui vient spontanément. Quelqu'un pourrait me dire ce matin, mais moi, j'ai de la difficulté pour adorer. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que sans le faire exprès, vous savez qu'on a été créé, genre, je vais le dire comme ça, designé pour louer. On le fait régulièrement. Quand on voit un bébé hein, avec ses joues roses et quand on est en train de lui dire « Oh, mais qu'il est beau, ce bébé !» En fait, on est en train de louer ce bébé, en quelque sorte. Certains louent des objets. Ma voiture, ma maison. Alors nous, ce qu'on veut, c'est louer le Seigneur. Parce que nous avons réalisé que c'est quelque chose de bon. Et si je posais la question, qui désire au milieu de nous que Dieu siège au milieu de son peuple? Tous, évidemment, c'est au travers de la louange. Dieu siège donc au milieu de son peuple, au travers de la louange. Donc Dieu cherche des intercesseurs, je l'ai dit au préalable, on veut intercéder pour tous les perdus. Et Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Tellement important aujourd'hui la fidélité. Hein. Aujourd'hui la fidélité, elle est un peu comme reléguée à un autre plan, alors que Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Le dictionnaire définit la fidélité en ces termes. Constance dans l'amour. Respect de la parole donnée. Aujourd'hui, hein, on était obligé de signer en plusieurs exemplaires pour qu'on soit sûr de la parole qui est donnée. À une certaine époque, ce n'était pas comme ça. Hein. Moi, je me souviens déjà, dans mon enfance, quand je donnais ma parole, et encore aujourd'hui, hein, je pouvais être sûr. Ce sont des principes qui m'ont été inculqués, auxquels j'y tiens. Si je donne ma parole, même si ensuite j'ai été maladroit, j'ai dit une parole et ça va me coûter, peu importe. Je donne ma parole, il faut que je l'accomplisse. Et aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes et des femmes de parole qui tiennent ferme. Et qui tiennent la route. Donc, respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements. Aujourd'hui, on voit beaucoup de variations. Conformité à la vérité, exactitude. Voilà ce qu'est un homme fidèle. Il y a le psalmiste dans le psaume 12, verset 2. Il y a ce constat apporté par la parole, et aujourd'hui plus que jamais. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On est d'accord avec ça. Hein. Fidélité aujourd'hui, elle est comme donc reléguée. La fidélité, on sait que c'est un attribut de Dieu. Si nous sommes fidèles, nous dit 2 Timothée 2:13, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle. La fidélité, finalement, c'est celui qui est stable. Stable dans ses émotions, stable dans sa marche avec le Seigneur. Quand on parle de fidélité, le Seigneur nous rappelle un petit détail qui n'en est pas un finalement. Il dit être fidèle dans les petites choses. Alors, comme le Seigneur nous connaît, d'abord, sois fidèle dans les petites choses. Et si tu es fidèle dans les petites choses, alors je vais t'en confier des plus grandes. Souvent, on aurait tendance à inverser cette échelle de valeur. Hein, où, voilà, on veut de suite voir les grandes choses. En fait, qu'est-ce qui est demandé ici? De prouver qu'on est fidèle dans les petites choses. Alors que le Seigneur nous aide. Dieu cherche des serviteurs. Je vais terminer par là. Et je crois que l'Église, une Église en bonne santé, c'est une Église où chacun met la main à la pâte. Moi, je bénis Dieu, hein, voilà, pour tous ceux et celles déjà qui ont participé, on le fera tout à l'heure peut-être un peu plus officiellement, mais remercier quand voilà, il y a un besoin, notamment par rapport à l'appartement, quand l'Église se mobilise les uns et les autres, ben, on fait un service pour Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, et j'ai apprécié, quelqu'un qui est au milieu de nous, il dit, mais alors, c'est pas compliqué avec voilà, l'emploi du temps à gérer, les enfants, le travail, les semaines qui passent, qui s'accélèrent, qui, on dirait que ça va de plus en plus vite. Il dit, mais en fait, ces temps-là, ce n'est pas du travail, c'est simplement un temps de communion fraternelle. Quand il a terminé, je me suis dit, en fait, il a tout compris. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Alors que le Seigneur nous aide à le trouver en train de le servir. Vous savez que chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. On est au service du Maître. Nous sommes tous appelés à servir. Alors évidemment, dans la soumission aux ministères qui sont donnés par le Seigneur dans l'Église, et que le Seigneur nous aide. Donc par exemple, aller visiter un malade. C'est à la portée de tous, apporter une parole de Dieu. Simplement lire un passage avec des personnes âgées qui ne peuvent plus venir au milieu de nous. Ça, c'est un service pour Dieu. Un témoignage à rendre, une parole de réconfort, un temps de prière pour des besoins dans l'œuvre de Dieu. Un don d'argent. Ah là là, dans les églises, si on parle d'argent, de suite, ça va se redire. Quand on parle d'argent, la seule personne qui est contente dans l'église, c'est le trésorier. Hein. Et oui. Hein. Mais en fait, est-ce que vous savez que... Alors, je l'avais lu. Quand je l'ai lu, je dis, mais quand même, c'est remarquable. Et puis, j'ai vérifié. C'est exact. Hein. Je crois qu'il y a 38% des paroles du Seigneur Jésus qui parlent d'argent. Dans les évangiles, 38% des paroles de Jésus qui parlent d'argent. Vous vérifieriez et chez vous, donc vous avez du travail, et comme c'est la rentrée, vous avez du travail pour la semaine prochaine, et puis il y aura donc une interrogation dimanche prochain. Donc, on peut servir le Seigneur de différentes manières, un service matériel à rendre à l'Église. Alors, il y a des pièges, je vais terminer par là, il y a des pièges qui guettent les serviteurs de Dieu. Servir pour avoir de la reconnaissance. C'est terrible. On sert parce qu'on a compris la grâce qui nous a été accordée. Le piège de l'autoservice. Je sers pour ce que cela peut m'apporter. Le piège de l'activisme. Je le disais tout à l'heure, c'est une réalité. Hein. On commence une semaine, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. On commence une semaine, on a à peine le temps de dire « Amen », elle est terminée, on en recommence une autre. Et on peut être pris par l'activisme. Il y a tellement de choses à gérer, à voir. Mais s'arrêter pour dire « Mais pour qui et qui je sers finalement ? Est-ce que je me sers moi ou je sers le grand Dieu de l'univers ?» Il y a le piège du service minimum. Je fais juste le SMIC spirituel. Juste, je sers à peine, juste manière. En fait, le Seigneur nous appelle à nous offrir complètement et entièrement à sa cause. Alléluia. Et David va le dire comme ça. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ça va toujours nous coûter quelque chose. Il faut qu'il y ait cet esprit de sacrifier quelque chose. Et le Seigneur nous fait cette promesse. C'est que quand on sacrifie des choses pour lui et pour sa gloire, le Seigneur n'est redevable de personne. Il va nous bénir, alléluia, au-delà de tout ce qu'on peut penser, même, ou imaginer, alléluia. Alors vous voyez, voilà, ce n'est pas un message de rentrée extraordinaire, mais simplement nous caler sur voilà, ces points tellement importants, le service, la louange, l'intercession, et le Seigneur recherche ces personnes comme ça, et je crois de tout mon cœur que nous verrons des grandes choses. Pourquoi ? Parce que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Et Dieu n'a pas terminé avec nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as voulu encore nous rappeler, Seigneur, l'importance de ces choses-là. Seigneur, mon Dieu, trouve-nous, Seigneur, fidèles. Seigneur, trouve nos cœurs, que chacun d'entre nous, dans nos vies, nous puissions être des hommes et des femmes résolus, Seigneur, mon Dieu, à voir ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Nous avons prié et nous croyons, Seigneur, que tu vas conduire toutes choses. À toi l'honneur, la puissance, l'autorité et le règne. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.